Rotin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, version estivale de l'émission. Chaque semaine, Héloïse Goy et Sébastien Bordenave nous donnent de bonnes idées, de romans jeunesse pour l'une, de bandes dessinées pour l'autre. Et à chaque fois, un libraire de l'équipe se joindra à nous pour trois bons romans. Aujourd'hui, attention, c'est Thibaut Raden, librairie de l'écriture à Vaucresson, qui est avec nous. Et ensuite, bibliothèque, nous réécouterons des visites de bibliothèque, cette semaine celle de Vincent Delerme et Dave. Bonjour tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Nicolas. Nicolas.
Bonjour
Nicolas.
On commence avec vous Thibaut Raden, parce que je suis content de vous voir. Allez-y.
Sympa pour les autres.
Ouais, sympa. Merci
oui,
Nicolas.
Vous, je vous vois tous les jours.
D'accord.
Je vais commencer par L'eau du vase de Claire Médard aux éditions de Beauvilliers. Je vous avais déjà parlé d'elle pour une pièce de théâtre.
Ah oui.
Et là, elle arrive avec un petit recueil de poèmes. Dont certains sont très très amusants, d'autres un peu tristes, d'autres très très beaux. Elle s'amuse à en faire des poèmes très courts. Ça ressemble presque à du haïku version française, mais c'est pas du haïku. Il y en a, elle va vous parler d'un mec dans le métro qui est enrhumé, par exemple, mais elle vous le fait tellement bien que ça devient très beau, en fait. Et je me suis amusé, moi, à le lire en face d'elle pour qu'elle ait mes réactions. Et en fait, j'ai éclaté de rire la plupart
Comment
du temps.
Comment ça, lire en face d'elle?
Parce que je la connais maintenant.
Ah ouais, elle vient à la librairie et tout
Elle est venue, ouais, déjà, mais c'est
Parce
juste que...
Parce que sa pièce de théâtre, vous l'avez vendue par palette.
Peut-être pas par palette,
par
mais j'en ai vendu
Thibaut
pas
Raden,
mal.
Quoi.
Et en fait, j'avais tellement aimé que j'avais pu la contacter. Et puis on a pu se voir, on a parlé, on est devenus
Comment
amis.
Elle s'appelle, la pièce de théâtre
Relief.
Relief.
Et du coup, quand elle m'a dit qu'elle était en train d'écrire un recueil de poèmes, je lui ai dit, bah, je veux absolument le lire. Voilà, parce que déjà, dans ses pièces de théâtre, elle a des brillances, elle est hyper intelligente. Et je me suis dit, en poème, ça doit être incroyable. Et ça l'est, vraiment, c'est un pur plaisir de lecture.
Vous en lisez un, vous êtes obligé,
oui,
du coup.
Oui. Attends,
ah, il y a le petit marque-page.
Oui.
Il avait prévu le coup.
Exprès. Y a-t-il une joie plus grande, après une matinée de labeur, que déjeuner dans un parc, bercé par le bruit des klaxons?
Ouais,
ça me fait rire, c'est hyper
C'est des photos, quoi.
Ouais, il y a ça, il y a de ça, il y a d'autres trucs avec des jeux de mots. Une qui s'appelle Matin, métro plein, métro tôt, métro près, métro crade. Il y a plein de choses comme ça, elle joue avec les sonorités. Enfin, c'est. Voilà. Métro bondé, quoi, couis-je ? Dans mon dos, la vibration d'une cloison nasale, récurrente, fournie, décomplexée. Vous voulez un mouchoir, monsieur ? Et plein de trucs comme ça hyper amusants et d'autres qui sont un peu plus profonds. Elle parle d'amour aussi et de tout un tas de choses.
Un petit dernier.
On reste dans l'humour parce que moi je les adore. Un qui est un peu dans l'air du temps avec le cinéma, ils ont osé, ils l'ont fait, reprendre Elvis à l'accordéon. Ça me fait beaucoup rire.
J'ai beaucoup aimé Elvis, moi. Mais parce que j'aime beaucoup Elvis en général. Vous nous rappelez le recueil de poésie ?
L'eau du vase de Claire Médard.
Super. Merci beaucoup, Thibaut Raden.
En plus, avec la voix de Grand Corps Malade, les poèmes, c'est quand même c'est quelque
Je
chose.
Je peux la faire plus lente encore.
Et l'éditeur, pardon ?
C'est les éditions de Beauvilliers.
Ok. Sébastien Bordenave. Non, Héloïse Goy, pardon.
Faux départ.
Pas aimé, Sébastien.
Pour la peine. Paf !
Ma recommandation, la première, c'est Jaune Tournesol. C'est le nom d'un très bel album jeunesse de l'autrice Juliette Adam. Vous l'avez certainement lu, messieurs,
oui.
Pour son premier roman chez Fayard.
J'avais
Tout va
fait
me manquer.
Une chronique sur son roman, oui.
Ben voilà. Eh bien, ça, c'est son premier livre jeunesse. Il nous raconte l'histoire de Soline, une petite fille qui adore toutes les choses de la vie. Elle aime les bulles dans sa limonade, les lampadaires, pourquoi pas, les coccinelles, les contes de fées, les feux d'artifice. Mais surtout, Soline adore tellement la couleur jaune qu'elle va devenir toute jaune. Et ça lui plaît parce qu'elle trouve que les adultes, eux, ils ont plutôt tendance à être grisâtres, un peu comme s'ils étaient tout le temps tristes. Et les parents de Soline s'inquiètent de voir leur fille toute jaune. Attention,
mais
vous regardez, c'est
pétant,
voilà,
elle est
c'est
pas jaune
malade. Non, ouais, elle n'est pas jaune malade, c'est jaune presque fluo.
Sinon, c'est embêtant.
Jaune lumineux, jaune rayonnant. Alors, les parents de Soline l'emmènent chez le médecin. Et pour lui faire retrouver une couleur grise comme les adultes, le médecin lui prescrit un drôle de voyage en train. Mais contrairement à ce qu'avait prévu ce docteur, Soline s'émerveille de tout ce qu'elle voit dans ce train, même quand elle se retrouve dans une tempête sous les éclairs, même quand elle croise un monstre de feu et de glace, Soline reste toujours du même jaune rayonnant, elle garde le sourire. vous avez saisi la métaphore, même entourée d'un monde de marasme, des tristesses, Soline a fait le choix d'être heureuse et de se rapprocher des gens jaunes comme elle. Et j'ai particulièrement aimé les dessins de ce livre. Vous venez de le regarder, Nicolas. Il y a un vrai travail sur les couleurs très vives, voire fluo, qui accrochent le regard.
Parce que sa couleur jaune contraste avec
le gris
du reste du paysage.
Ouais. Voilà, c'est un hymne à la joie, très tendre. Jaune tournesol de Juliette Adam, avec des illustrations de Maureen Poignonec. C'est chez Père Castor, donc Flammarion Jeunesse.
J'ai Père Castor, c'est valeur sûre, ça.
Eh oui.
Sébastien Bordenave, c'est à vous.
Ben moi, j'avais envie de rendre hommage aux femmes en BD, dans des genres différents, dans des styles différents, pour des publics différents. Mais les BD que je vais vous présenter aujourd'hui mettent au cœur de leur récit des femmes téméraires et courageuses, des femmes, quoi. Oui, je sais. Démago, c'est mon deuxième prénom. Donc la première BD, c'est plutôt pour un public qui a pré-ado. C'est Toubab de Nouria Tamarit. Elle est publiée aux Aventuriers de l'étrange. Le graphisme des personnages de Nouria Tamarit est reconnaissable tout de suite. Les personnages ont des yeux tout ronds, tout noirs et pourtant super expressifs. Nouria, la dessinatrice, elle est espagnole. Elle n'a pas 30 ans. Elle a déjà sorti plein d'albums très frais. Et là, c'est Toubab. Ça se passe au Sénégal, le pays de la Teranga. Vous savez ce que c'est, la
Teranga? Pas du tout.
Non, pas du tout.
Teranga, c'est la base là-bas. C'est la famille, les amis, les gens de passage. Tout le monde se retrouve autour d'un plat unique. C'est ça, la Teranga, qui se trouve dans un bol et tout le monde pioche à la main la nourriture.
C'est le déjeuner, quoi.
Pardon ?
C'est le déjeuner. Quoi.
C'est le déjeuner, sauf qu'il y a du poulet, de l'huile, des choux, des patates.
Mais c'est pas très Covid, ça. Si
c'est
on
pas très
ça
Covid
friendly,
non. Voilà, exactement. C'est ça qu'on appelle la Teranga, mais c'est quand même un beau symbole parce que tout le monde est le bienvenu autour de la Teranga, que vous soyez chrétien, musulman, animiste. C'est cet esprit-là que va découvrir une ado rousse qui participe avec sa maman à une mission humanitaire. C'est l'histoire de la BD. Quand Mar, c'est son prénom, la jeune fille, quand elle se balade dans le village, tout le monde dit Toubab, Toubab, parce que Toubab, en Wolof, c'est les blancs. Enfin, plus précisément, tout ce qui n'est pas Wolof est Toubab. Dans la BD, on apprend plein de choses. En plus du plaisir à découvrir l'histoire, on apprend que ce mot Toubab vient de l'époque coloniale. Les colons parlaient anglais, leur monnaie c'était le shilling, mais on disait Bob. Donc les Wolof ont appris à demander de l'argent et demander Toubab, c'est devenu Toubab. C'est là que revient Toubab.
Aujourd'hui, on dit Babtou aussi, Babtou, en
verlan.
Ça fait un peu légende apocryphe, ça.
Ouais, c'est vrai.
Et au-delà de cette anecdote, en fait, c'est l'Afrique que va découvrir cette jeune fille, se rendre compte que oui, il n'y a pas la Wi-Fi partout, que finalement, c'est pas plus mal. Elle va aussi apprendre à ses dépens que le concept de la propriété là-bas, c'est un peu un concept flou parce que quand on trouve des tongs et qu'on n'en a pas, on les prend, on les utilise et puis après on les laisse quand on n'a plus besoin. Donc voilà, Toubab, c'est une BD totalement dépaysante, qui va déconstruire pas mal de clichés. C'est une BD plutôt pour les ados, mais j'ai kiffé, donc c'est plutôt une BD pour tout le monde en fait. Toubab.
Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Toubab donc
de Nouria Tamarit.
Parfait.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue toujours avec Sébastien Bordenave qui nous parle de bande dessinée.
Pareil.
Thibaut Raden, notre libraire de Vaucresson, librairie L'Écriture. Et puis Héloïse Goy, notre chroniqueuse jeunesse. Et ben justement, c'est à vous Héloïse. De quoi nous parlez-vous ?
Eh bien du grand retour de petits personnages cultes qui ont bercé de très nombreuses enfances depuis près de 40 ans, peut-être la vôtre Nicolas. Cette bande dessinée a été créée en 1983 dans les pages d'un magazine féminin. Depuis, près de 2 millions d'albums ont été vendus. Et ces albums nous racontaient la vie et surtout les bêtises de ces petits personnages. Il s'agit de deux garçons, d'une fille, ils sont frères et sœurs. Les trois sont blonds, j'ai nommé...
Les triplés.
Eh oui. Les triplés de Nicole Lambert font leur retour avec un album intitulé « Les triplés à la campagne ». Pour beaucoup d'adultes, ces petits personnages seront une Madeleine de Proust. Mais sachez que beaucoup d'enfants connaissent aussi « Les triplés » parce que cette BD jeunesse a le droit depuis 2014 à une série animée diffusée sur France 4 et sur Netflix. Et sachez que ce n'est pas pour vous donner un coup de vieux, mais les triplés auront 40 ans à la fin de l'année prochaine.
Mon âge.
Oh là là, c'est jeune finalement. Dit comme ça, c'est très jeune. Heureusement, comme vous Nicolas, les triplés semblent immortels. Et comme vous, ils ne changent pas. Ils ne grandissent pas. Ce sont toujours des boîtes à bêtises. Dans ce nouvel album, on les voit cueillir les plumes d'un dindon qui n'en demandait pas tant. Lorsque leur grand-père leur apprend à utiliser un tire-bouchon, eh bien les garçons s'entraînent à ouvrir toutes les bouteilles de vin de la maison.
Ouais,
il faut bien s'entraîner.
Mais
il faut bien s'entraîner. N'empêche qu'ils savent bien ouvrir des bouteilles maintenant. Ouais. Et la petite fille a la bonne idée de remplir d'eau les bottes en caoutchouc de ses frères. Le chien Toto n'est pas en reste. Vous savez, le chien Toto, il est arrivé plus tard dans la saga, mais maintenant, il est toujours là. Et le chien Toto a la bonne idée de faire pipi sur les belles citrouilles bio de la voisine. qui est ravi, comme vous pouvez l'imaginer. Et pendant les quatre saisons de l'année, les triplets sont contents parce qu'à la campagne, au mois de mai, il y a beaucoup de jours fermiers. En revanche, en octobre, à Halloween, l'un des triplets a plutôt la chair de trouille. Alors, comme l'indique le titre de l'album, les triplets se sont installés à la campagne pour quelque temps, comme leur créatrice Nicole Lambert, qui, comme beaucoup de Français, a décidé de quitter la ville pendant le confinement. Et les triplets restent toujours aussi espiègles et rigolos qu'à leur création.
Mais c'est ça, c'est un album inédit. C'est
oui,
pas
c'est
des
un nouveau.
Reprises et tout.
Mais
ça
non,
continue,
non.
Quoi.
C'est tout neuf, absolument.
C'est toujours la même dessinatrice.
Nicole Lambert, c'est et c'est même aux éditions Nicole Lambert. Elle a créé sa propre maison d'édition. Ça s'appelle Les Triplets à la campagne.
Parfait, aux éditions Nicole Lambert.
Et donc, voilà.
Thibaut Raden, de quoi parle-t-on?
D'un petit chouchou.
Un grand livre, grand format, comme ça.
C'est un beau livre, comme on dit. Vous connaissez ma passion, ma fascination pour le Japon et l'art japonais. Là, c'est tout l'art de Mamoru Hosoda, par Charles Solomon, n'importe quoi, aux éditions Hugin Menin. Et en fait, alors Mamoru Hosoda, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cinéaste d'animation japonais qui est un peu dit, bon ça c'est un peu facile, mais on le dit quand même, comme le futur Miyazaki, voilà exactement. Alors ils ont travaillé ensemble à un moment donné, ils devaient réaliser Le Château Ambulant, Hosoda, il ne l'a pas fait pour diverses raisons, qu'on apprend dans le livre. Et donc là en fait c'est toute une analyse critique et biographique de ses films, il en a réalisé plusieurs, ses premiers étant Digimon pour ceux qui connaissent. Digimon était à un moment donné... une petite ombre derrière Pokémon qui s'est vite fait effacer d'ailleurs, mais bref, dès Digimon, l'art du cinéma de Hosoda était présente et c'est un type qui fait de l'animation qui est extrêmement surprenante. Il a tendance à rajouter de la 3D, ce qui peut être un petit peu un peu terrible pour les puristes du genre, mais en fait il le fait avec un brio. Dans son dernier film Belle, qui est sorti l'année dernière, je crois, au cinéma, il mélange l'univers 3D et l'univers 2D, donc dessiné à la main, parce qu'il y a deux univers différents, un réel, le nôtre, l'autre virtuel. Et en fait, il a un talent monstrueux pour vous faire des films extrêmement divertissants, qui bougent, qui ont une énergie folle, mais avec une profondeur et un humanisme qu'on retrouve très peu chez les cinéastes de manière générale, très peu chez les Japonais aussi, parce que lui, tout comme Miyazaki, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait la comparaison, il s'inspire du monde entier, non pas que du Japon et de la culture japonaise, mais du monde entier. Belle, dont je parlais tout à l'heure, c'est une adaptation extrêmement libre de La Belle et la Bête. Il l'avait déjà fait avec son film d'encore avant, qui était Le Garçon et la Bête. Enfin, voilà.
Mais là, le livre, c'est pas une histoire, c'est un making-of, c'est des storyboards, en fait.
Il y a des storyboards, il y a comment ils travaillent, et il y a aussi des passages entiers où c'est Hosoda qui parle, qui raconte ce qu'il a voulu faire. C'est pour ça que je dis que c'est biographique aussi.
Il y a des dessins partout.
Hein. Ouais, il y a des dessins partout, et puis ces dessins sont superbes. Dans l'univers de l'animation, la base, c'est le storyboard, et si un storyboard est extrêmement bien fait, le film est presque déjà fait. Et quand on regarde les storyboards de Hosoda, ils sont incroyables. Quand on regarde les images finales et le storyboard, à part de la couleur, il n'y a presque pas de différence. C'est dire à quel point il est méticuleux, précis, et qu'il a en tête tous ses films. Et il est vraiment à découvrir. C'est un cinéaste que j'aime particulièrement, et que ce livre existe, c'est un bonheur pour moi.
Ça s'appelle comment ?
Tout l'art de Mamoru Hosoda.
Parfait. Et c'est aux éditions
Hugin
Menin, qui est spécialisé dans les beaux livres pop culture.
Exactement,
comme ça.
Ouais. Ils en font des très bien.
Ouais. Merci beaucoup Thibaut et Sébastien Bordenave. On termine cette séquence avec vous.
Bah, on reste dans un univers graphique avec une BD. On est en 1916 et c'est la vraie histoire de Elizabeth Freeman. La BD s'appelle Wako Aurore Elizabeth Freeman l'infiltrée. C'est publié chez Glénat. On est en 1916, l'Amérique est non seulement toujours ségrégationniste, mais en plus, le carton hollywoodien du moment au cinéma fait 50 millions de dollars de recettes et c'est un film à la gloire du Ku Klux Klan. Tout cela est vrai. Elizabeth Freeman se bat pour faire changer les mentalités, mais aussi pour faire éclater la vérité, parce qu'il y a un jeune noir de 17 ans, et il est disparu à Waco, au Texas. La BD raconte comment cette femme va gagner la confiance des notables de la ville, puis les duper pour tout savoir sur cette affaire qui a vraiment eu lieu. Hein. C'est le lynchage horrible de Jesse Washington. Un photographe va même fixer sur la pellicule l'immonde vérité, montrer ce qui s'est passé, et l'opinion publique va se renverser. En fait, ce qu'on ne voulait pas voir avant, bah, une fois montré, va devenir définitivement inacceptable. Cette BD, elle se lit comme un polar, le souffle coupé, avec de la tension tout au long du récit. Outre l'intérêt historique de cet ouvrage, on se rend compte que certains combats au pluriel peuvent s'entrecroiser et être totalement liés, parce que Elizabeth Freeman, elle était concernée par le racisme, mais aussi par le féminisme. C'est une suffragette. Elle était activiste pour obtenir le droit de vote des femmes aux USA. Là, on est en 1916. Le droit de vote des femmes aux USA, c'est 1920. C'est le 19e amendement. Donc, racisme, féminisme, on appellera ça plus tard l'intersectionnalité. Bref, cette BD nous éclaire sur l'histoire avec talent. À la fin de l'album, d'ailleurs, il y a une interview des deux auteurs, Clément Xavier et Lisa Lugrin, qui remet l'œuvre en perspective. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est romancé. C'est une BD impressionnante, publiée chez Glénat. C'est Waco, Aurore, Elizabeth Freeman, L'Infiltré.
Vous connaissiez ça, Thibault, le spécialiste BD ?
Non. Non. Je suis passé à côté pour le coup.
Ouais. Mais c'est un genre, la BD historique comme ça, qui marche très bien, j'ai l'impression.
Déjà parce que c'est un... Je pense commercialement, c'est quelque chose qui marche bien. Mais aussi parce qu'on a de super auteurs hein, qui savent faire ça. Donc, je ne la connaissais pas du tout, mais je vais la lire.
Je vous la ferai avec plaisir.
On refait un petit tour des titres pour ceux qui ont un papier et un crayon de l'autre côté de la radio. Sébastien.
Waco, Aurore, Elizabeth Freeman, L'Infiltré chez Glénat.
Héloïse Gouin.
Les triplés à la campagne de Nicole Lambert chez Nicole Lambert.
Thibaut.
Tout l'art de Mamoru Hosoda.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, chapitre 3, toujours avec Sébastien Bordenave, Héloïse Gouin et Thibaut Raden. Eh bien Sébastien, vous gardez la parole. On vous a quitté à la séquence précédente et je voudrais que vous nous parliez encore de bande dessinée.
Eh ben, on en parlait hors antenne avec Thibaut. Je présente une BD qui est une sorte de ovni, un ovni consacré aux femmes, mais c'est une BD ovniesque totale. C'est publié chez La Boîte à Bulles et ça s'appelle « Sorcières, mes sœurs ». Alors, on est en 1976, Jean-Pierre Dionnet vient de créer Métal Hurlant, un magazine de BD culte. Et pendant un déj d'équipe, en fait, il demande aux femmes dessinatrices présentes de créer un autre magazine de BD, mais pour les femmes, par les femmes, avec la même folie, la même créativité. Ça sera le magazine Anana. A-A-H-Nana. Il n'y aura que 9 numéros seulement, mais 9 numéros quand même. Et parmi les dessinatrices, il y a Chantal Montelier. Alors, elle officie dans la presse, elle est romancière, elle est peintre. Elle a aussi dessiné pour Charlie Mensuel, mais aussi pour Le Monde, L'Humanité, Marianne. Et surtout, bien avant Mona Chollet, elle parle des sorcières, ces femmes qui furent considérées comme telles parce que la société les considère inutiles, inutiles à procréer, inutiles à séduire les hommes, à s'occuper d'un homme. Les dessins et les histoires qu'elle a publiées à l'époque dans Anana, eh ben les voici dans cet album, Sorcières, mes sœurs. Elle les a aussi réactualisées, redessinées, elle en a dessiné des nouvelles. Et honnêtement, en reprenant des thématiques actuelles, mais honnêtement, c'est difficile de savoir quelles sont les histoires qu'elle a redessinées actuelles ou celles qu'elle a fait il y a très très longtemps. Chantal Montelier, elle dessine un peu à la Jacques Tardy. C'est-à-dire que c'est des traits apparemment très simples, mais d'une émotion et d'une sincérité qui font plutôt mouche. Ce sont des histoires inventé ou réel, il y a des contes, il y a des fables avec à chaque fois donc la même thématique, la femme qui, jouissant d'une trop grande liberté ou faisant de l'ombre au pouvoir en place, se voit ostracisée, diabolisée et traitée comme telle par les instances dirigeantes, alors que ce soit des princes, des médecins, des prêtres. On va pas se mentir, il y a quand même du militantisme derrière. Ceux qui ont aimé Mona Chollet, ils seront aux anges, pour les autres ça va être l'enfer. Sorcières, mes sœurs, c'est un album avec beaucoup de personnalités qui rentrent dans aucune case, ça tombe bien pour une BD.
Et beaucoup de personnages tout nus aussi, hein.
La plupart des personnages sont tout nus tout le temps.
C'est bon,
tranquille.
La première page.
Ouais, mais ça met une ambiance hyper particulière dans la BD.
Assez strange.
Ouais.
L'autrice écrit en préface que cette année 2022 a vu une déferlante d'obscurantisme. Bah, l'actualité aux USA lui donne raison. En remède, elle cite Shakespeare, elle dit « Le ciel est vide, tous les démons sont ici, il n'y a que l'esprit et la sagesse humaine pour pouvoir les combattre. » Amen.
Mais ça fait peur ou pas ?
Non, ça fait pas peur. C'est une ambiance très, très étrange, très onirique.
Il y a quelque chose de maléfique quand même.
Il y a un peu quelque chose
dégage.
De magnifique. Ouais.
Magnifique. Sorcières, mes sœurs, c'est à la boîte à bulles. Merci beaucoup, Seb. Thibaut, un roman ?
Ouais, un roman de science-fiction. Je crois que vous aimez ça en plus, ouais. La science-fiction. Ça s'appelle Un souvenir nommé Empire, un joli titre, de Arkady Martin. C'est chez, j'ai lu maintenant.
C'est un américain ?
Une américaine.
Une américaine.
Une américaine qui dit, avant de commencer son livre, qu'elle dédie ce livre à tous ceux pour qui une autre culture a renversé la leur. Quelque chose qui me parle beaucoup là-dedans. Et c'est aussi pour ça que le livre, je l'ai ouvert. Alors, j'ai mis du temps au départ, parce que j'ai d'autres trucs à lire, j'ai plein de trucs à lire, j'en peux plus. Mais à un moment donné, le livre vous appelle, bah, vous l'écoutez, vous venez. Quoi. Et j'ai eu absolument raison, ce livre est incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de la science-fiction aussi intelligente. Alors, on n'est pas dans du Asimov, on n'est pas dans des trucs comme ça, on ne va pas vous inventer tout un tas de choses. On va suivre une femme qui est une femme qui habite sur la station, alors je ne saurais pas le prononcer, Zell, je sais pas comment, L-S-E-L, c'est une station dans l'espace et qui doit aller sur une planète de l'Empire qui s'appelle Texica Alan, parce qu'en fait l'ancien ambassadeur de cette station est mort, que c'est probablement un meurtre, et que de toute façon, au-delà de résoudre le meurtre, elle doit prendre sa place. Mmh. Ils ont un petit secret dans cette station, c'est qu'ils ont inventé une technologie qui leur permet en fait d'avoir l'esprit d'une personne dans leur tête, mais en fonction de la sauvegarde. Si vous le faites tous les deux ans, tout va bien, sauf que là, elle se retrouve avec l'esprit du type qui vient de mourir, 15 ans en arrière. Donc en fait, il n'a même pas encore fait son travail, il ne sait même pas pourquoi elle était probablement tuée, qu'il doit essayer aussi de résoudre son propre meurtre.
Mais ça ne sert à rien pour la résolution du meurtre.
Ça ne sert à rien pour la résolution, et ça ne sert à rien tout court, parce que quand il va se voir à mort, il va griller. Donc elle va se retrouver toute seule. Elle va se retrouver toute seule dans un monde où...
Ah, parce qu'attendez, que je comprenne
bien. J'ai le cerveau qui chauffe, là.
Elle a l'esprit du type dans sa tête, ouais. En plus du sien.
Voilà.
Mais ce n'est pas juste, elle peut voir et visiter les souvenirs
lui,
du type.
Il est dans elle, bien sûr. Il a ses yeux, ses bras, ses... Voilà. Il ne parle pas à sa place, mais presque. Enfin, et c'est la seule technologie importante du livre. Et il va griller, donc elle va se retrouver toute seule dans un monde, du coup, je disais, où en fait, par exemple, l'arme politique la plus puissante, c'est la poésie. Sauf que c'est une poésie très particulière, c'est la poésie de cette culture. Et donc, quand on vient d'ailleurs... On ne la connaît pas vraiment, on peut difficilement la comprendre quand bien même on l'a étudiée toute sa vie. Et elle va se retrouver dans des complots politiques extraordinaires qui ne s'arrêtent jamais. En vrai, il ne se passe rien dans ce livre, sauf des gens qui parlent.
Ça n'a pas l'air, hein, comme vous le racontez, il a l'air de se passer plein de trucs.
Évidemment qu'il se passe plein de choses, mais je veux dire, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de monstre. C'est juste des gens qui parlent, c'est des espèces de mouvements, de manigances politiques sous fond d'un peuple qui se révolte aussi. Ça parle extrêmement bien de toute façon à notre ère aujourd'hui. Et elle le fait avec un brio mais vraiment incroyable. Cette femme, j'ai vraiment découvert quelque chose. Surtout qu'en plus, elle s'inspire de la culture byzantine. Qui, rien que ça, moi, ça me fait rêver. Donc dans le livre, j'étais aux anges et je l'ai conseillé à tour de bras. J'ai même conseillé à mon patron, qui est aussi fan de littérature SF, qui me dit « Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien !» Donc ouais, je vous invite, pour les amateurs et les non-amateurs, parce que c'est vraiment un très grand livre à
c'est
lire.
C'est gros, c'est petit ?
C'est assez gros, ça fait 500 et quelques pages quand même.
Mmh. Ouais, bah, c'est bien, parce qu'avec tout ce que vous nous avez raconté, il faut du temps place. Pour mettre en place aussi.
En vrai,
aussi.
Je vous ai rien raconté du tout.
Rappelez-nous le titre.
Un souvenir nommé Empire. Ouais. Arkady Martin.
Arkady Martin, on retient. Tant que je vous tiens.
Ouais.
Pour l'été, c'est important, les classiques aussi.
Ouais, un classique.
Et il y en a un que je sais que vous aimez beaucoup, que j'ai toujours pas lu. Et je dois l'avouer, mais c'est vraiment une faute presque professionnelle, quoi.
Je dirais pas ça, mais je le pense, en tout
cas. C'est La pierre et le sabre.
La pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa.
C'est les trois mousquetaires japonais, quoi.
Alors non, c'est pas les trois mousquetaires japonais, c'est le Alexandre Dumas japonais. Ah, oui. C'est pas la même chose. La pierre et le sabre, ça raconte l'histoire de Miyamoto Musashi, qui dans l'histoire du Japon, la vraie avec un grand H, est dit comme le plus grand samouraï de tous les temps. C'est un type qui était très hargneux quand il était jeune, n'écoutait personne, faisait toutes les bêtises possibles. Et lors d'une bataille très célèbre au Japon, a décidé de prendre part, alors qu'il avait, je sais pas, 14 ans. Enfin, de toute façon, les âges, c'était pas la même à l'époque. Mais il a décidé de prendre part à cette bataille. Il a pris peur lorsqu'il voyait tout le monde mourir. Il s'est caché parmi les morts. Et donc, c'est une... au Japon, c'est un déshonneur total. Hein, c'est la mort, normalement, ces trucs-là. Et quand il est revenu dans son village, il a été pourchassé par tous ses habitants. Parce que, bah, déjà, parce qu'il a fui, qu'en plus de ça, il a été lâche. Mais en plus de ça, il volait de la nourriture pour, bah, pour manger parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Et en fait, il va être habilement piégé par le moine de la ville qui va l'attraper, le mettre dans une pièce pendant un an, lui disant « Tu vas lire tous les livres qu'il y a ici et tu ne sors pas tant que les livres ne sont pas lus. » Un an plus tard, les livres sont tous lus. Un nouvel homme apparaît et c'est un homme qui veut parfaire l'art, son art du sabre et sa philosophie. Et il va voyager dans tout le Japon pour ça. Et il va rentrer dans tous les dojos et battre tous les maîtres. Enfin, voilà, c'est une grande histoire, vraiment superbe à lire.
Le livre a été écrit à quelle époque ?
C'est début 20e.
D'accord.
La pierre et le sabre, je vous jure que j'essaye de le lire.
Ah ouais, ça donne envie.
Enfin. Merci beaucoup Thibaut. On rappelle Sorcières, mes sœurs.
Chantal Montelier, la boîte à bulles.
Ça c'est Sébastien Bordenave. Et Héloïse Goua, elle n'en avait pas.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Retour dans La Voix est libre. Et comme promis, on réécoute des belles visites de bibliothèques. C'était il y a quelques années, c'était quasiment une des premières visites de bibliothèque, celle de Vincent Delerme. Et on a parlé notamment gastronomie et recettes d'omelettes. Mais oui.
Bonjour Vincent Delerme.
Bonjour.
Bon, on est chez vous, là, ça ressemble à une de vos chansons en fait. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a des cassettes, il y a un pick-up. Il y a un piano, évidemment. Là, on est dans votre salon. Il y a une table basse, blanche, en bois, un peu passée ou faussement vieillie.
Non, c'est une vraie vieillie. C'est un vrai vieilli.
D'accord. Un grand canapé.
Les gens vont croire que c'est très vieux chez moi.
La cuisine est ouverte. Non. Parce que, alors bon, il faut dire, il y a quelques bibliothèques, mais les livres sont un peu partout. C'est pas tout rangé.
C'est vrai.
Et vous avez des cassettes, donc je disais, des cassettes audio.
Ouais.
Là, il y a les Beatles, il y a David Bowie. Mais vous avez le lecteur cassette qui va avec ou pas?
J'ai des lecteurs cassettes, ouais. En fait, c'est des trucs dont les lecteurs cassettes, tous ces appareils-là, même le truc pour les disques, c'est des trucs dont je me suis servi dans des spectacles, souvent. En fait, j'ai gardé beaucoup de choses.
Bon, alors, il y a quand même quelques livres, on est là pour ça. Alors là, c'est quoi, en fait? C'est pas de la littérature, ça, c'est plutôt des beaux livres.
Voilà, il y a beaucoup de photos, donc Malik Sidibé, Sédou Keïta, ça, c'est... C'est quand même beaucoup... Les livres de photos, c'est un truc qui prend beaucoup de place chez moi, parce que j'adore la photo. Quelque chose de précis, un témoignage qui est très fidèle du moment et de l'intensité du moment. La photo qui est la plus grande chez moi, c'est une photo de Romy Schneider.
Romy Schneider, nue.
Ouais, on la voit, bah oui. Je crois qu'elle est nue entièrement, mais on voit que le haut.
Dans le salon, avec vos
J'ai
enfants
la partie
et
basse,
tout, quoi,
dans le grenier. Non, dans le salon, oui, mais justement, c'est pas du tout... je crois pas que ce soit très choquant. Et surtout, on sent vraiment l'instant.
C'est surtout qu'elle fume, quoi.
C'est un soir... Ah oui, il y a ce... C'est pour moi typiquement photo, c'est-à-dire que... On se met à la place de la personne qui a pris la photo. Il y a dans un coin, vers le haut, le briquet et son paquet de cigarettes. Et puis, on sent la soirée qui est en train de se faire avec elle. Et ça, c'est la vraie force des photos, c'est qu'on peut se mettre assez facilement à la place des gens qu'on photographie et sentir les instants, ce qui est un truc que j'essaye beaucoup de faire en général, en chanson, dans mes spectacles et tout ça.
Vous arrivez à vous emparer de ces livres parfois et de vous poser un peu pour les regarder ou
oui,
pas
oui.
Assez?
Souvent le matin, quand je suis réveillé avant les autres, j'ai une petite tendance au réveil à 5h30 du matin. Donc c'est un bon moment parce qu'on est disponible. D'une manière générale, le matin, on est un peu comme nettoyé, comme il y a quelque chose qui est... On peut tout prendre un peu de front, on n'est pas perturbé par le fait d'avoir appris tel truc, qu'il faut faire telle chose et tout ça. Et c'est un moment où on est comme disponible, je trouve. Et voilà, c'est des moments où j'aime bien regarder ces bouquins.
Dans vos chansons, vous parlez beaucoup justement de photos. On voit des photos quand vous chantez. Est-ce que vous piochez aussi dans ces livres-là et vous le posez sur le pupitre à côté de la partition pour vous inspirer de la photo? Comment ça se passe?
Non, pas vraiment. À part sur la chanson justement qui s'appelle Martine Parr, que j'avais faite à un moment où j'étais bloqué, où je ne savais vraiment pas quoi dire, quoi écrire. C'était, j'avais fait 3 disques et puis je ne sais pas, j'avais un blocage. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais repartir vraiment d'un photographe et là, faire une chanson qui a rien. Enfin, j'invente rien dans la chanson. Je ne fais que décrire très précisément des photos. Tout le texte de la chanson, c'est que ça.
Puisqu'on en parle, sur le piano, y a, c'est quoi? C'est des vinyles ou c'est des partitions, ça?
Non, ça, c'est des vinyles, mais qui sont très neutres. Ouais. C'est juste avec juste de la typo, des aplats de couleurs.
Il a quelque chose de spécial, ce piano, ou pas?
C'est le piano droit le plus lourd du monde. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas une blague. Et c'est un gros Triensteinweg. Ça marque Steinway, mais avant qu'ils émigrent aux États-Unis, c'est l'ancêtre du Steinway. D'accord. Le vrai. Ce qui permet qu'il ait une pédale d'appartement, ce que n'ont pas les Steinway, qui permet de ne pas embêter les voisins. Sur les Steinway, maintenant, ils ne veulent pas mettre de pédale comme ça. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé cette partition. Vous l'aviez dit que c'était vous qui jouiez.
Je peux le dire, j'ai joué sur le piano de Vincent Delerme.
Ça doit faire quelque chose.
C'est classe. C'est le seul truc que je sais jouer.
Et c'est brillant.
Où sont les autres livres? Parce que là, il n'y a plus rien.
Là, il n'y a plus rien. Bah attendez, bon, papa. Si, il y a des recettes, regardez.
Ah, il y a des livres de cuisine. On est dans la cuisine parce que c'est une cuisine ouverte.
99 omelettes originales.
99 omelettes originales.
Je savais que ça vous plairait, j'ai senti un peu.
Et ça date de quand, ça? Année 80?
76, dites donc, mon année de naissance.
Qu'est-ce qu'il y a comme type d'omelette?
Regardez. Omelette aux carottes, omelette aux pointes d'asperges.
Omelette aux nouilles.
Omelette aux nouilles. Alors donc, faites chauffer la sauce tomate, faites l'omelette à l'accoutumée. Posez-la sur le gâteau de pâte et nappez avec la sauce tomate. Et il faut avoir fait un gâteau de pâte, préalablement. Qu'est-ce qu'une omelette? La question peut paraître inutile et pourtant, il y a de l'omelette bon nombre de définitions. Mm-hmm. Et nous avons tous entendu une fois au moins une querelle, à côté de laquelle celle des anciens et des modernes n'était rien. Qui est celle de l'omelette baveuse, de l'omelette dorée.
Voilà. Vous en servez de ce livre?
Je ne sais pas s'il faut faire trop long là-dessus. Hein. Non, quand même,
non,
évidemment.
Pas la peine.
Je m'en sers, non.
Parce que depuis la cuisine, on voit votre chambre et je vois qu'il y a d'autres livres. Vous avez du Richard Brautigan, qui est un de mes auteurs préférés. Vous aimez Richard Brautigan?
Ben oui.
C'est un recueil de poèmes. Le baiser fantôme, par exemple, je le lis. Il n'y a pas pire enfer que de se rappeler intensément un baiser qui n'est pas venu.
C'est chouette, ça.
C'est chouette, ouais.
En fait, avec la poésie aussi, bon, Brautigan, c'est assez limpide. En général, on arrive à entrer dedans, mais j'aime bien la poésie en général. Même le côté, on comprend une phrase sur huit. Il en ressort quelque chose.
Je prendrai ta main qui me rappelle un chat que j'ai bien connu et nous irons marcher.
Bon, ben voilà. Du coup, c'est typiquement le genre de vers dont on fait un peu ce qu'on veut. Et on peut quand même pas mal mettre de soi là-dedans, alors que quand on lit un livre, bah, on est tenu quand même de suivre l'intrigue, On vous fait un peu marcher au pas de quelque chose. Avec la poésie, il y a un truc très ouvert et qui fait que chaque personne qui va lire ça, les gens qui vont entendre ça vont se dire « Tiens, est-ce que j'ai connu une fille qui avait une main qui ressemblait à un chat que j'ai connu ?»
Tiens, c'est qui ça? Philippe Delerme.
Ah ben, il y a tout un rayon sur Philippe Delerme.
Donc c'est votre papa?
Plutôt dans cette zone-là, ouais.
Ils sont tous dédicacés?
Beaucoup. Mais non, ouais, c'est... Moi, j'ai toujours aimé l'écriture de mon père. Je me souviens de l'âge où finalement j'ai commencé à lire, qui était... où j'étais déjà adolescent, et j'ai lu quand j'avais 17-18 ans, j'ai lu des bouquins qu'il avait écrits 10 ans avant. Et ça m'a fait de l'effet, évidemment, parce que c'était des choses... C'est quelqu'un qui est aussi très... qui s'inscrit beaucoup dans une vraie vie, dans une absence d'imagination. Je dis ça de manière très positive, parce que j'ai la même chose. Souvent, je me suis recollé à des trucs que j'avais plus ou moins vécu, ou à des mélancolies que j'avais pu ressentir, ou à des moments très forts de la vie de mes parents.
Il y a la première gorgée de bière, bien sûr. Vous vous souvenez du succès de la première gorgée de bière?
C'était très marquant. Moi, je suis devenu une star à la fac de Rouen. J'étais le fils du mec qui a fait la première gorgée de bière. C'était ma grande expérience du vedettariat, en fait. Parce que, après, bizarrement, ça m'a fait moins d'effet de faire mon premier disque et que ça fonctionne un peu. Parce que ça, c'était fou, quoi.
Je vois Journal d'un homme heureux aussi, là. Journal d'un homme heureux que j'avais lu. Il est sorti il y a un an, à peu près.
Oui.
Et c'est son journal des années 80. Et vous êtes beaucoup dedans.
D'une année, en fait, précise, ouais.
Il parle de vous, enfant. Et de votre sensibilité, ouais. Je ne lis pas la dédicace, hein, c'est personnel.
Merci.
Ça vous ennuie, ça, qu'on parle de vous enfant, qu'on livre des choses? Parce que bon, vous étiez un enfant très sensible, d'après ce que j'ai compris en lisant
le livre. Je lui ai dit, quand il a fait le bouquin, je lui ai dit « Putain, mais je pleure tout le temps dans ton livre. » Mais en fait, ouais, en plus, lui, ça lui plaisait sûrement, parce que c'est lié à des moments, des formes d'intensité, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait. En plus, moi, j'ai toujours... il y a pas mal de fois où c'est des émotions, très, au contraire, très positives, mais qui font monter les larmes aux yeux. Après, c'est non, je me suis même pas posé la question, en fait, de savoir si c'était gênant ou s'il avait le droit ou pas. C'est son travail d'écrivain et moi, j'ai fait partie de ça et ça a été une chance immense pour moi parce que, bizarrement, là, on parle de bibliothèque, justement, les livres en général ont toujours été très présents autour de moi, même si je suis assez peu lecteur. Je mets longtemps à finir un livre, je lis pas 12 000 livres par semaine. Mais j'ai besoin physiquement qu'il y ait des livres autour de moi. Et puis j'ai sûrement une affection pour ça, pour la mise en page. Ça a toujours été un peu là et comme un truc un peu mythique aussi. Et ça, c'est lié à cette vie-là, à cette enfance que j'ai eue avec eux. Et voilà. Et en plus, il se trouve que j'ai aimé beaucoup d'autres choses que les choses qu'ils m'ont proposées. Mais par contre, les trucs qu'ils m'ont proposé, ça n'a jamais été un souci pour moi. C'est des choses que j'aimais aussi. Juste, moi, j'aimais des trucs en plus. Mais je ne me suis pas dit, oh là là, je déteste, il faut absolument que je m'en aille de cette baraque. Donc finalement, c'est assez rare. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais après coup, tout le monde m'a dit, oh, c'est bizarre quand même, ne pas avoir fait de crise d'adolescence, il faudrait peut-être voir un psy. Et puis, mais c'était comme ça, et tant mieux.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue et les visites de bibliothèque continuent. J'étais très curieux de visiter la bibliothèque de Dave, le chanteur. Au départ, j'y étais allé en me disant, du côté de chez Swann, il doit aimer Proust. Eh ben non. Mais en revanche, c'est un grand bibliophile. Allons-y.
Bonjour Dave.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Ah ben j'adore, si c'est pas parler de livres, vous venez quand vous voulez. Jusqu'à 10h le soir, après je dors.
Et il y en a plein des livres d'ailleurs, ça tombe bien. Et on est arrivé évidemment par le rez-de-chaussée, on est dans le 16e arrondissement de Paris. Et vous m'avez dit, non mais on va commencer par là-haut, il y a un auteur dont je veux absolument vous parler.
Voilà, parce que donc, je trouve qu'il est méconnu. Voilà, dans les chansons, il y a des gens méconnus après leur mort, comme je sais pas, Mabéco, Nougaro, très injuste. Et dans les écrivains français, je suis toujours surpris que les Français ne connaissent pas Paul d'Ivoire. Le prénom Paul, c'est-à-dire D'Ivoire. C'est un écrivain un contemporain de Jules Verne qui a écrit des livres extraordinaires qu'on peut trouver en livre de poche, parce que moi, je les ai dans les collections de l'époque.
Ouais, vous avez collection grand format de l'époque, grand format et rouge, un peu comme les Jules Verne, d'ailleurs,
pareil,
des éditions
Hetzel. Il y en a aussi, d'ailleurs, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est, Paul d'Ivoire ?
C'est des livres d'aventure, c'est des livres... presque pour ados, quoi, ou pour adolescents interdits, comme je suis. Ça m'énerve que les Français ne connaissent pas Paul d'Ivoire, parce que c'est donc un contemporain de Jules Verne, avec ce même style de livre. Et c'est des livres un peu d'adolescents ou d'adolescents éternels. Tiens, ça me fait penser sur mon album, j'ai dit « Adolescent étonné d'additionner tant d'années ».
C'est
je suis un adolescent étonné d'additionner tant d'années, vraiment.
Parce que vous êtes encore adolescent, au fond.
Ah ouais, je pense.
Vous le relisez, Paul d'Ivoire?
J'ai un petit branleur, en quelque sorte.
Vous le relisez encore aujourd'hui, Paul d'Ivoire?
J'ai relu, il n'y a pas longtemps, pas dans la version de ces grands livres, parce que là, tu te couches avec ça, tu ne tiens pas, quoi. Donc, ça existe en livre de poche.
Il y a le Sergent Simplet, les Semeurs de glace, Miss Mousquetaire. C'est quoi, ça raconte
c'est
quoi?
C'est très connu. Alors, c'est un couple qui va se coucher au bord de l'eau, quelque part, en France, et puis ils entendent parler à côté d'un truc qui semble très étrange, un kidnapping, etc. Ils vont suivre, et après ils se font prendre, ils se réveillent sur un bateau, et après ils se trouvent en Indochine. C'est un livre d'aventure, mais extraordinaire, extraordinaire. C'est sur 3 livres, et il faut vraiment, enfin bref, j'espère donner envie aux gens qui vous écoutent.
Vous l'avez découvert quand? Parce que c'est quand un truc de gamin,
j'avais 15-16 ans, je pense.
Vous étiez déjà en France?
Non, mais c'était, je l'ai lu en hollandais.
Ah, vous l'avez lu en hollandais?
Ah oui, complètement, oui, oui.
Et vous lisez toujours en hollandais ou pas?
Très rarement. Je lis en fait en anglais et en français, et de temps en temps en hollandais, parce que, en fait, les livres, c'est des rencontres, vous le savez aussi bien que moi. C'est un ami qui va lire tel livre, etc. Donc, ça peut être un ami hollandais. Donc, j'aime bien aussi être un peu au courant de ce qui se passe dans la littérature hollandaise, quoi. Mais par exemple, Dostoïevski, qui est un de mes écrivains, quand j'étais adolescente, qui fait partie de ceux qui m'ont fait un peu partir. Parce qu'il y a des gens qui vous donnent envie de voyager.
C'est à cause de Dostoïevski que vous avez tout quitté.
C'est plusieurs auteurs. Et il y avait le Jacques Kerouac, On the Road, sur la route en français, ouais, qui m'ont donné envie. Il y a un écrivain hollandais qu'on peut trouver en français, qui s'appelle C.S. Notenboom, qui a écrit un livre, Philippe et les autres. Et tout ça a fait que j'avais envie d'aller voir ailleurs, quoi. Donc Dostoïevski m'a plutôt fait faire des conneries à cause de Crimes et châtiments. Parce que je me suis pris un peu par Raskolnikov et je voulais essayer des choses interdites. Par exemple, j'ai volé un billet dans le portefeuille de mon père, panique à la maison, tout le monde est accusé et je n'ai pas tenu bon. À un moment, j'ai aidé à le retrouver. Pourquoi? C'est moi qui l'ai volé, donc je l'ai retrouvé.
Est-ce qu'on l'a retrouvé?
Je l'ai retrouvé sur un canapé entre 2 coussins où je venais de le mettre. Donc.
Vous n'avez pas avoué le crime quand même?
Non, je suis bon mais pas ce point, bon mais pas con quand même.
Sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Et qu'est-ce que c'est, tous ces livres-là?
Alors là, il y a quand même beaucoup de... un grand partie de mes livres d'enfants sont au fond de la mer. Ah, parce que le bateau avec lequel j'ai quitté... Moi, je suis parti en bateau. J'ai quitté les Pays-Bas en bateau. Et ce bateau, après, a continué sans moi. Et il est rentré dans un rocher dans la mer Rouge. Et moi, j'y revenais régulièrement. J'avais quitté le bateau parce que le garçon qui j'ai quitté la Hollande, j'en étais éperdument amoureux, mais comme il n'était pas gay, comme on dit aujourd'hui, donc c'était difficile quand même dans la même cabine. À un moment, j'en avais marre. Quoi. Et donc, il m'est resté mon meilleur ami jusqu'à sa mort. Il meurt d'un cancer il y a pas mal d'années maintenant. Et tous mes livres d'enfance sont à 40 mètres de fond.
Mais comment ça se fait qu'ils aient continué sans vous, vos livres?
Ah, bah parce que j'y allais le rejoindre régulièrement, parce que j'avais encore de l'espoir. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Patrick Vazot. Voilà.
Ah, c'est dur, ça.
Et donc, mais il m'en restait quand même un peu. Sinon, évidemment, il y a des livres en anglais.
Alors, c'est quoi ces livres-là?
Là, c'est beaucoup de hollandais, quand même. Là-haut, c'est. Ouais, c'est mélange. Vous savez, on n'a pas vraiment mis les choses en l'ordre. Il y a, par exemple, il y a dit Stephen King, voilà.
Oui.
Moi, j'ai une période de science-fiction très longue dans ma vie, qui a vraiment. Je ne regrette pas, parce que beaucoup de choses que j'ai lues dans le livre de science-fiction sont arrivées, même des choses graves et des choses horribles. Oui. Heureusement, pas tout ce que raconte Stephen King, parce que c'est quand même un chef des horreurs. Mais
c'est quoi votre préféré de Stephen King? Moi, j'adore aussi, c'est pour ça.
Oh, bah, le tour, l'histoire du tour. Là.
La tour sombre, qui a été adaptée en série télé, d'ailleurs, récemment.
C'est raté.
Et, vous avez regardé?
Non, j'ai vu un extrait, je dis c'est raté. Il y a un livre de science-fiction qui s'appelle Dune. C'est un livre de Frank Herbert. Oui, vous connaissez?
Bien sûr.
Fantastique. Fantastique, ils ont essayé de le faire rater aussi, on ne peut pas. Moi, c'est marrant parce que quand mon père est mort, vous savez, à le moment de la séance après l'enterrement, il y a un monsieur, un vieux monsieur qui avait des larmes aux yeux et j'ai eu cette phrase qui sort de Dune, il donne de l'eau aux morts. Parce que l'eau était tellement rare, vous savez, sur Dune, vous souvenez. Donc donner de l'eau, il ne fallait surtout pas parce qu'on en avait peu, donc on ne pouvait même pas pleurer. Quoi. Et c'est pensé à ce moment-là, j'ai dit, merde, tu penses à Dune pendant que ce pauvre homme pleure pour ton papa.
Mais les livres sont avec vous sans arrêt, en fait. Ah, vous regardez le monde par les livres, finalement.
Heureusement. Hein. J'ai, vers la cinquantaine, ce qui est quand même déjà il y a plus de 20 ans, j'ai compris que tout ce qu'on fait, c'est un peu pour oublier justement que la vie est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, tant qu'on n'y pense pas trop, on est bien. Ça peut être un bon repas, un joli voyage. Mais bon, faire la cuisine, dans mon cas, j'adore faire. Mais avant tout, lire, quoi. On est ailleurs quand on lit. Et donc, on ne peut pas être vraiment malheureux quand on est au bord de sa piscine avec un petit peu de soleil et un bon bouquin, quoi.
Mais vu ce que vous venez de me dire, les romans, ils ne vous servent pas seulement à vous divertir. Ils vous aident à vivre d'une certaine manière.
Donc, c'est viatique,
comment,
quoi.
Comment?
Mais parce que j'y apprends des choses, parce qu'ils m'aident à vivre. C'est pour ça, c'est ça, un viatique, quoi. Ils me permettent de voyager sans prendre l'avion et passer par la douane. Et puis, ils m'enrichissent, quoi. Je pense que c'est ça.
Vous avez encore des livres anciens, là, des petits formats. Vous aimez aussi le. Vous êtes un fétichiste du livre. Vous aimez avoir des éditions originales, des choses comme ça.
Vous avez vu avec Paul d'Ivoire, oui, j'aime bien ça. Puis l'odeur des livres, quoi. Maintenant, je ne suis pas contre prendre un Kindle pour prendre un grand livre dans un train et pas avoir des tonnes de livres avec soi. Hein, c'est pratique. Mais rien vaut quand même l'odeur d'un vieux livre, quoi. L'odeur des pages un peu moisies. Ça va avec mon âge, je suis moi-même un peu moisi sur moi.
Allez, attendez, c'est quoi cette pièce quand même là? Parce que moi je suis un peu. Voilà, je suis curieux là. Je suis chez Dave, dans une ce qui a l'air d'être votre bureau, c'est là que
vous composez. Non, ça c'est la pièce de mon compagnon et c'est là où il écrit mes chansons.
D'accord.
Toutes les chansons de l'album qui vient de sortir, sauf une qui a des Renaud, ce qui m'a fait très très plaisir de chanter un texte de Renaud parce que généralement il le chante lui-même. Et il m'en a donné une texte sur lequel on a fait mettre la musique par mon réalisateur Thierry Geoffroy. Sinon, les paroles, depuis 1974, sont de Patrick Vazot. Et lui a un grand bureau à lui. Moi, j'ai un petit coin ordinateur dans la chambre. Parce que moi, je ne travaille pas là. Moi, je travaille sur la scène. C'est pas pareil.
La voix est libre. Nicolas Caro.
Donc là, on est au rez-de-chaussée.
Il y a
deux guitares et il y a encore beaucoup de livres, de part et d'autre d'une belle cheminée.
Ouais,
c'est quoi les livres qui sont ici?
Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est ça qui est terrible. Il y a des livres là aussi, c'est assez désordonné. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le lycée classique, comme on dit en France. Donc, c'est-à-dire que latin, grec, beaucoup de langues, quand même assez littéraire. J'étais rédacteur en chef du journal, donc j'écrivais. Donc, j'ai toujours été, comme vous disiez à juste titre, attiré par les mots, quoi. belle chanson de Renaud sur son ancien album Le Mot, très jolie chanson.
Et vous écrivez pas, vous avez pas un roman dans le tiroir qui...
J'ai écrit 3 biographies, ce qui est quand même très prétentieux, parce que 3 autobiographies.
Mais de la fiction, qu'une vie. De la fiction.
Ça m'est déjà venu. J'écrivais pas mal d'histoires courtes quand j'étais plus jeune, mais la chanson a poussé ça quand même, beaucoup. Ouais. Non, je pense. En plus, je pense pas avoir la discipline, c'est une question de discipline souvent, hein, la discipline nécessaire pour te mettre devant une feuille blanche le matin et écrire 2-3 heures. Avec les autobiographies, j'y suis arrivé parce que le sujet était tellement passionnant. Mais modeste.
Qu'est-ce que c'est que ces livres bleus là que je vois sous la télé?
Ça, c'est sur les livres de Van Gogh.
Ah.
Parce que Van Gogh...
Triote.
J'ai encore des Français qui pensent que Van Gogh était français.
Oui,
ça,
oui.
Ça m'énerve un peu. Et à un moment, j'ai failli jouer Théo Van Gogh dans un film Maurice Piala. C'était assez incroyable. Ça n'a pas duré très longtemps. À un moment, Daniel Auteuil, qui fait partie de mes plus vieux amis et mes bons amis, et Daniel était pressenti par Piala pour jouer Vincent Van Gogh. Et c'est Piala lui-même, Maurice Piala lui-même, qui a dit à Daniel, je sais que votre ami Dave est hollandais et ça m'intéresserait qu'il joue Théo. Et Piala avait toujours une forme d'admiration assez simpliste pour les chanteurs. Ça l'épatait, les chanteurs. Et donc, on a fait un dîner ensemble avec lui, sa compagne, Daniel et moi. Et ça a fini avec, bon, ben, on se voit bientôt pour les essayages de costumes. On est parti dans la rue avec Daniel du restaurant. Je nous vois courir dans la rue un peu comme un pub pour une marque de cigarettes, main dans la main, en hurlant de joie. On va travailler ensemble de nouveau, parce qu'on avait fait ensemble quand même 2 ans de théâtre. Et on prend ma voiture, je repasse une petite rue, Piala est au bord de la route, il nous fait signe de nous arrêter, je baisse la fenêtre, il me dit finalement non. Donc ça a duré 10 minutes, quoi.
Sans autre explication.
Sans autre explication, c'était bien lui. Et après, avec Daniel, lui a commencé même à repeindre, à peindre, etc. Et lui aussi s'est fait envoyer promener. C'est Jacques Dutronc qui a fait le film. Donc quand même un chanteur. Mais Van Gogh de Piala, c'est Jacques Dutronc. Voilà, c'est intéressant.
Dommage.
Ouais. Mais sinon, Van Gogh, évidemment, je le cite souvent parce que quand les jeunes gens me demandent aux vieux chanteurs que je suis comment il faut faire, je dis 3 lettres. C'est TTC, travail, talent, chance. Et un jour, j'ai vu une émission, un documentaire sur Maurice Chevalier qui disait « Il faut avant tout avoir de la chance ». Et c'est lui qui a raison. La chance est la chose la plus importante. Que ce soit un chanteur, que ce soit pour ouvrir un garage ou un restaurant, si tu n'as pas de chance, tu n'y arrives à rien. Et Van Gogh avait du talent, il a beaucoup travaillé et il n'a pas vendu un tableau de sa vie.
C'est terrible,
je
ça.
Je pense que son frère, Théo, n'était pas le meilleur manager du monde non plus. Ce n'était pas un bon agent, peut-être.
Bon, ben merci beaucoup, Dave, pour cette belle visite. Pleine de livres et d'histoires. Merci beaucoup, Dave.
Retour en studio, merci beaucoup à Dave, merci aussi à Héloïse Goua et Sébastien Bordenave et Thibaut Raden. C'était la dernière page de cette Voix et Livres de l'été et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix et Livres.
Nicolas Carreau.